la ceinture de fer dans le territoire d'Uribe. Au cœur de la guerre civile, le gouvernement provisionnel du Pays Basque, avec à sa tête le président du gouvernement autonome basque, le Lehendakari José Antonio de Agirre, lance le début de la construction de la ceinture défensive de Bilbao, un périmètre qui sillonne, en bonne partie, les villages d'Uribe. Son objectif, protéger la ville de l'armée franquiste. Alberto Montaúd Noguerol, chef d'état-major de l'armée basque, militaire fidèle à la République et homme de confiance du Lehendakari, se verra confier la réalisation du projet. Il sait comment s'y prendre, puisqu'il a appartenu au corps des ingénieurs et qu'il a enseigné les fortifications à l'école supérieure de la guerre. S'ajoutent aux commandes du service des fortifications les capitaines du génie, Pablo Murga Ugarte et Alejandro Goicochea Omar, ce dernier étant issu du corps des réservistes. Tous deux sont sous les ordres directs de leur supérieur, Alberto Montaúd. Cet ouvrage doit obéir aux réalités du terrain, à savoir sa faible élévation, la succession de lignes de tranchées échelonnées et la profusion d'armes automatiques protégées par des nids blindés, munis d'abris et de barbelés. La ligne défensive qui protège Bilbao se trouve divisée en 5 secteurs, deux d'entre eux, le 4e et le 5e, traversant les terres d'Uribe. Des municipalités telles que Larrabetzu, Berango, Sopela, Urduliz, Barrica ou Gamisfica sont pourvues de structures de défense dont on peut encore visiter les restes aujourd'hui. Mains à l'ouvrage et première des loyautés. Les travaux commencèrent à être réalisés sans tarder dès le 9 octobre 1936, car il n'y avait pas de temps à perdre. Les tranchées les plus communes étaient constituées d'un seul fossé creusé, sur un mètre de profondeur, comptant de rares parapets, afin de les rendre moins visibles pour l'ennemi. Des lignes de barbelés sont installées devant les tranchées et les nids de mitrailleuses. Ces derniers constituaient la base de la défense projetée par le lieutenant-colonel Montaúd, qui jugea nécessaire d'en fabriquer 1400 unités. Quelques jours après le début des travaux, le 28 octobre, la déloyauté du capitaine Pablo Murga Ugarte fut révélée au grand jour. Les plans de construction de la ceinture de Bilbao, ainsi que de minutieux détails concernant les fortifications, allaient être livrés à l'ennemi par l'entremise du consul d'Autriche et de Hongrie. Une fois fait prisonnier, le militaire est dégradé, jugé et condamné à mort. Il est fusillé le 12 novembre au cimetière de Derio. Mais le mal était fait. Avant d'être détenu, Pablo Murga avait réussi à faire passer du côté du camp ennemi deux envois contenant des renseignements sur les travaux de fortification. À la suite de cet événement, le capitaine Goicochea exerce désormais tout seul le commandement sur le service des fortifications. Il restait encore, fin 1936, beaucoup à faire. Tranchées, barbelés, nids de mitrailleuses, abris, les travaux n'avancent pas au rythme escompté. Cap vers le nord et changement de camp. Février 1937, Madrid résiste et les troupes de Franco fixent leurs objectifs sur la zone nord de la péninsule. Le capitaine Goicochea presse déjà la défaite et il envisage la possibilité de se rallier au camp adverse. Une nouvelle déloyauté majeure se prépare là. Goicochea fait appel à M. Unceta, marquis de Casajarán, un notable de la droite qui s'est réfugié dans une clinique à Bilbao, feignant d'être malade. Celui-ci le met en contact avec Guillermo Barandiaran, qui fait son possible pour lui obtenir l'accord nécessaire pour changer de camp. Les allées et venues de Goicochea sont décelées par la Ertzaintza, police autonome basque, qui les porte à la connaissance des plus hauts gradés, à titre très confidentiel. Finalement, le Lehendakari le convoque à son bureau, mais Goicochea parvient à le convaincre de sa loyauté. Ne se sentant plus en sûreté, le capitaine décide de déserter, et ce, le plus tôt possible. La date qu'il se fixe est celle du 27 février. Une fois arrivé en territoire ennemi, Goicoechea rédige un rapport complet sur les fortifications de ce qui commencera à être connu sous le nom de ceinture de fer. Ainsi se trouve consommé un autre cas de trahison par un haut gradé qui, outre le fait de s'arroger le mérite d'être parvenu à retarder les travaux de fortification, porte sciemment à la conscience de l'ennemi les trois zones de la ceinture laissées par ses soins sans la moindre protection avant de déserter. Un épisode ô combien important et non dénué de conséquences. Ce ne sera pas le seul cas de déloyauté connu. Le 1er février, une autre personne nommée à un poste de haute responsabilité dans le cadre de ses travaux, l'architecte Jesús Rafael Basterrechea, était également passé à l'ennemi en l'informant ponctuellement de ce dont il avait lui-même connaissance. Début de l'offensive. L'armée franquiste tire parti de cette conjoncture et exploite toute l'information reçue avant de commencer son offensive le 31 mars 1937. Sa vitesse de progression est d'environ 500 mètres par jour, minimale certes, mais suffisante cependant pour que, les semaines passant, la capitale soit à sa portée. Et malgré cela, le camp républicain résiste et Bilbao ne se rend pas. Début mai, lorsque les troupes basques combattent à Soyoubé, on insiste encore sur la nécessité de faire avancer les travaux de la ceinture. Le Lehendakari demande à être informé de la situation. Le 13 mai, Montaout présente son rapport rédigé en des termes si réalistes qu'il risque de démoraliser les troupes. Celui-ci n'est pas satisfait du résultat. Le 16 mai, l'armée franquiste prend le sommet du mont Biscargui. De là, elle surplombe la ceinture qui se dévoile sous ses yeux. Les troupes franquistes vont ainsi pénétrer le territoire d'Ulibe. Leur attaque par le 5e secteur devient plus qu'évidente. Les franquistes ont l'avantage pour eux, mais la ceinture les intimide encore, ils s'activent alors à concentrer leur artillerie face à elle. Urkulu, qui est une prolongation du Biscargui, devient le tremplin dont a besoin l'armée rebelle pour engager l'assaut de la ceinture. Dans la tumulte de la bataille. Les combats débutent le 11 juin. Les positions les plus proches du Biscargui sont mitraillées sans répit depuis son sommet. Des communes d'Ulibe, telles que Gamisfika ou Larabetsu, sont à portée de tir. Face à l'armée franquiste, les bataillons Carlos Marx, Indalecio Prieto, Asturiano 252, Quiriquinho, Zabalbide, ANV 3 et Gordechola se préparent à résister. Assaillis de toutes parts par l'aviation et l'artillerie, les premières défections ont lieu et s'ensuivent les replis. Mais à la tombée du jour, l'armée basque prépare une contre-attaque. Il faut récupérer les positions perdues et protéger la ceinture. Ce sont les forces de la 12e brigade qui se lanceront à l'assaut. Ces dernières se trouvent à Larabetsu et sont composées des bataillons anarchistes Celta, Sacco et Vanzetti et du nationaliste Abeyaneda. Les bataillons asturiens 231 et 212 y participeront également. La contre-attaque est repoussée. À l'aube du 12 juin, le bataillon Abeyaneda se retire avec un bilan de pertes s'élevant à près de 150 hommes. Les franquistes font prisonnier une vingtaine d'hommes, basques et asturiens, sur les flancs du mont Urkulu. Profitant du beau temps et de l'inertie provoquée par leur succès, l'armée franquiste se dispose à percer la ceinture. Le camp républicain a besoin de renforts d'urgence pour faire face à l'attaque qui se déclare définitivement à l'aube du 12 juin. Dès 8 heures du matin, le feu de 180 pièces d'artillerie se concentre sur la ceinture, partant des environs du mont Biscargui. Le général Franco fait le déplacement pour pouvoir assister à cette attaque. Pour accompagner ce mouvement, des moyens aériens d'une envergure sans précédent dans l'histoire sont mobilisés, 70 bombardiers et 40 avions de chasse. Quelle que fût la qualité de sa construction, la ceinture de fer n'aurait jamais pu résister à une telle agression. Alors que l'artillerie provoque l'effondrement de la défense basque, l'aviation pilonne ses réserves, dote Dieu les attaquants, mitraille les défenseurs. À Gaztelumendi, les nids de mitrailleuses sont les principaux objectifs de l'artillerie. Les troupes basques sont en état de choc sous l'effet d'un tel déploiement de force et par l'intensité de l'agression qu'elles subissent. Aux abords de la ceinture. À midi, l'artillerie cesse toute activité, bien que le travail de l'aviation se poursuive dans les airs. L'heure est venue pour l'infanterie ennemie de passer à l'attaque. Au pied de la ceinture, elle commence son déploiement. La première brigade de Navarre descend des hauteurs d'Aretxabalgan et d'Urkulu avec des chars de combat. La 5e et la 6e brigade de Navarre viennent de Fika, accompagnées et protégées, elles aussi, de chars de combat. Les mitrailleuses du bataillon Saseta leur font face depuis Gaztelumendi et Kantoibaso. Une pièce d'artillerie de 75 mm est en position depuis Urusti. Repérées par l'aviation ennemie, elles ont au fait d'être neutralisées. À 1h de l'après-midi, l'attaque de la 6e brigade de Navarre débute. Les éclaireurs franquistes déploient le drapeau sur les sommets de la frange attaquée qui ont été sciemment laissés sans protection par le déserteur Goicoechea. Sur 3 km à peine, l'ennemi déploie 20 bataillons, soit près de 12 000 hommes. Son objectif est d'élargir la percée qu'il a entamée et d'ouvrir le passage dans toutes les directions en attaquant la ceinture de l'intérieur. Les brigades franquistes occupent de nouvelles positions, Gaztelumendi et Astoreca à Larrabetzu, ainsi que Goitiolza, San Vicente et Garaiolza à Lezama sont les premières à tomber. Le commandement rebelle décide de ne pas poursuivre l'attaque au-delà pour la journée. De son côté, le commandement basque n'organise pas non plus la contre-attaque correspondante sur cette zone. Pendant les jours suivants, les troupes franquistes délogent les dernières défenses de la ceinture et avancent sans encombre dans la vallée du Chorieri. Retrait et effondrement de la ceinture. Comme le sort de Bilbao se règle sur un autre front, les forces de la 5e division de l'armée d'Euskadi se retirent par la côte, en ordre et de manière échelonnée. Derrière eux, l'ennemi avance en occupant des bourgs tels que Plensia, Berango, Getxo. Mais il y a encore de dernières tentatives de résistance, comme celle du bataillon UGT-7 Asturias, qui en partant d'Unbe, tente un dernier coup d'éclat à Lauromendi en faisant de nombreux prisonniers. Des milliers de soldats basques, appelés Goudaris, et de miliciens auront versé leur sang à Archanda dans un ultime sacrifice pour la défense de la ville en échange de l'évacuation de 200 civils et combattants vers Santander. Bilbao tombera le 19 juin 1937, une semaine après la rupture de sa ceinture défensive. Cet audioguide a pu être réalisé grâce à la collaboration d'Aitor Mignambres, directeur du musée mémoriel de la ceinture de fer, et au soutien de la députation florale de Biscay et du gouvernement basque, sous l'impulsion de l'association de développement rural Jataundo.